Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Radio Campus Lille. Vous en avez assez de ce confinement, et en plus ça commence à sentir le renfermé chez vous ? Alors suivez-nous. Avec Annick et Christian, nous partons au Rajasthan en Inde, au guidon d'une Royal Enfield. Prendre un grand bol d'air et d'aventure. Une archive enregistrée en avril 2019. Toujours au sommaire de cette émission, rendez-vous avec Joël Courroy, pilote d'enduro et de trial. Créateur de l'AFATA et constructeur de la JCM, une machine de trial moderne, construite à plus de 1000 exemplaires. Une archive du mois de novembre 2013. Et pour terminer, une séquence de mars 2014. Joss Hart, le meilleur stunter français de 1991 à 2001, avec 7 records du monde dont 3 homologués au Guinness Book, se lance un nouveau défi. 12 ans après avoir raccroché les gants, Maxi Joss fera son comeback au salon de la moto de Pécancourt de 2014. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne écoute sur les ondes de Radio Campus Lille. Nous sommes en compagnie de Annick Toulouse, Christian Vosny et André.
Oh, écoutez, Daniel Donta.
Daniel, je m'en doutais que j'ai implanté.
Di Alibaba.
Voilà. Il n'y a pas trop longtemps, vous êtes parti en Inde, au Rajasthan, il y a au mois de février, hein, 3 semaines. Hein.
Tout à fait.
Donc ça fait un mois et demi que vous aurez allé un petit 2 mois, quoi, que vous êtes rentré.
Ouais.
Dites-nous un petit peu comment vous avez le ressentiment après, quand on revient ici, après avoir passé 3 semaines là-bas, dans ce pays. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez ?
Ah ben c'est très riche, hein, je dirais, les sensations, c'est on n'a qu'une seule envie, c'est éventuellement d'y retourner, dès que les moyens nous le permettent, quoi. Parce que c'était extrêmement bien organisé et...
Alors on va en parler de ça, l'organisation, oui. Parce que là c'est super, c'est Annick qui a tout préparé, mais on va en parler après. Hein.
Oui, voilà. Tout à fait. Oui. Non mais là c'était quand même très bien organisé.
Et donc les gens là-bas, c'était la première fois que tu...
Aussi en Inde. Non, j'ai fait quand même les États-Unis, j'ai fait pas mal
c'est
de...
C'est pas pareil,
de,
c'est pas le même pays.
Oui, tout à fait, mais en Inde, c'est la première fois, tout à fait.
Alors par contre, Christian, lui, c'était pas la première fois, parce qu'il y a quelques années, tu es monté au Ladakh, sur le Kardula, là, à 5600 mètres d'altitude, ouais, hein, en Royal Enfield. Alors je sais pas si Yannick...
C'est la troisième fois, et on avait fait l'Inde du Sud.
Toi, la troisième fois, voilà.
Ouais, l'Inde du Sud, on a fait.
Donc là, vraiment, j'ai vu, hein, Rajasthan, c'est pas tout à fait pareil que Ladakh et le Cachemire, hein, c'est plus plat.
C'est plus plat, c'est plus plat. Mais il y a tellement de choses à voir, c'est très riche. En monuments, c'est vraiment extraordinaire. On a fait plein de choses, de la tyrolienne, du désert, en dromadaire. On a fait plein de choses.
Ah, vous avez fait des dromadaires,
voilà. On a dormi dans le désert, etc. Ouais. Super organisation.
Voilà, et donc, et ça, c'est Annie qui a préparé le voyage d'ici de France.
Hein. De France.
Vous n'êtes pas passé par un prestataire.
Non, non, du tout.
Hein, c'est Annie qui a préparé le voyage, donc sur Internet, location des machines, le parcours, faire le parcours, les réservations d'hôtels. Ouais. Et donc, c'est pas mal, ça.
Ouais, tout, ouais, ouais. Le plus long, effectivement, c'est déjà de faire le tracé, en fait. Hein. C'est de savoir ce qu'on a envie de voir, où il y a les points intéressants, culturellement aussi,
oui, les
choses comme ça.
Par où les cons, quoi, pas faire des kilomètres et des kilomètres pour dire, oh, ben voilà, on a fait 3000 bornes, parce que vous avez fait 3300 kilomètres,
non,
à peu près.
2300,
hein.
Ouais.
Voilà, on se limite à 120 par jour pour pouvoir visiter et voir des choses, sinon tu fais que rouler.
Et puis là-bas, il faut dire que c'est pas comme ici en France, 200 kilomètres, c'est tout de suite 4 heures. Hein.
Bah ouais, tu connais.
Ah, je connais.
Oui, mais bon, par contre, c'est vrai que la conduite est vraiment spéciale, mais pour moi, il y a une liberté. Moi, je retrouve la liberté de conduire à moto, c'est extraordinaire. On passe où on veut, où on peut aussi.
Où on peut,
hein, voilà, oui. C'est ça. Bon, ouais. On roule à gauche, mais on peut très bien rouler à droite. Les sens interdits, on s'en fout. Les stops, c'est inexistant. Les feux rouges, c'est pareil. Hein, feu rouge, on en a vu quoi.
C'est la liberté, c'est la liberté de conduire. Liberté. C'est pas comme ici en France où ça devient une dictature. Hein.
Ouais,
carrément.
Hein, avec la police, les radars, maintenant les doubles radars qui vont vous.
Les radars tourelles.
Qui vont regarder ce que vous faites dans votre voiture. Voilà. Donc là-bas, c'est la liberté totale.
C'est la liberté. Ah ouais, moi je.
Et finalement, il n'y a pas, quand on regarde le nombre d'accidents, vu la population, la densité du trafic, mais c'est relativement encore réduit.
Oui, mais ça roule pas très vite. Hein.
Les statistiques annoncent 300 000 morts par an, mais pour 300 millions d'habitants.
Ça fait le même
pourcentage qu'en France dans les 70.
Oui, effectivement.
Et les animaux, ça ne gêne pas sur le.
Il y en a, on fait avec. Entre les singes qui traversent, les paons, les serpents, les chiens, les chèvres.
Les singes.
Oui, les singes, bien sûr. Plein de singes aussi.
Si vous voulez bien vous rendre compte, vous allez voir, il y a une vidéo de Lolo de Motojournal sur le Rajasthan en moto sur YouTube. Elle est vraiment, c'est vraiment exactement ce qu'on a fait.
Swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate. Your many virtues laid to waste, and we aren't listening. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day.
What do you have for us today? Throw us a bone, but save the blade. Oh, why you waited till so late?
Was there no oil to excavate? No riches in trade for the fate of every person who died in hate? Throw us a bone, ye men of great. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watching wait for redemption day. It's buried in the countryside.
It's hidden in the shells of night.
It's everywhere a baby cries. Freedom.
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 On part en Inde avec alors Annick, Christian, Daniel. Voilà. Hein, voilà. Donc, revenir un petit peu sur le. Vous n'êtes pas passé par un prestataire parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, ils font beaucoup de pubs. Il y en a certains, on peut faire de pubs. Hein, mais, et donc, vous avez construit le voyage à partir d'ici, de la France, sur Internet. Annick.
Oui, 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 en fait, beaucoup de recherches ben, pour essayer de trouver les bonnes adresses.
Il faut trouver la location de moto, parce que je suppose que vous êtes passé par un garage.
Je peux te couper 10 secondes. En fait, on est parti avec ce grand prestataire de service avant, de voyage, qu'on nommera pas aussi, mais qui roule en Royal Enfield. Et on trouve que c'est vrai que les prix augmentent énormément. Donc, on s'est dit, on va se débrouiller nous-mêmes. On est un peu plus d'habitude de l'Asie. On va le faire nous-mêmes. Et puis, Annick est tout orchestré de France.
Donc, alors, réservation des
machines. On
peut dire ça, mais réservation des machines. Faire réserver aussi, je suppose que vous avez. Oui, vous m'avez dit que vous avez été à l'hôtel.
On a fait un
camping.
Enfin, camping, non. On a dormi sous les tentes, mais les tentes
Chez l'habitant. Chez l'habitant. Mais comment vous faites pour discuter avec l'habitant? Parce que l'habitant, en anglais.
En anglais, hein.
Avec les mains, sommaire, sur Internet. Christian, tu te fous de moi, quoi.
On a fait des palaces aussi.
Ouais.
On a réservé des palaces.
Non, c'est vrai qu'on a dormi, on a vraiment fait de tout. Hein, je veux dire, au niveau couchage, on a dormi à la Belle Étoile, on a dormi sous la tente, on a dormi dans un super palace.
Tu l'avais prévu, ça, avant?
Oui, ça, j'avais prévu, justement. Pour varier les plaisirs. Non, très très bien. Non, c'est bien amusé et puis c'était très sympathique et on a tout apprécié en fait. Hein. Même si on n'avait pas d'eau chaude tous les jours, c'est pas grave.
Oui, après les hôtels, il y a hôtel à hôtel. Hein, si on
c'est l'Inde.
Il y a des endroits où t'as peur de rentrer dans la chambre parce que là, c'est. Voilà.
Bah, c'est vrai qu'il y a un hôtel que j'avais réservé qui paraissait très bien. Et puis ben, finalement, on a dit, on vous peut voir les chambres, on a vu les chambres, on a eu les odeurs et on a dit,
voilà,
on reste pas. Donc on a fait 50 km de plus et puis on
là,
en
vous
a
avez,
trouvé.
Là, ouais, là vous non, avez improvisé.
Il voilà. y a des fois, bon, ben, malheureusement...
Bon, les motos, je suppose que c'était des Royal Enfield.
Bien sûr. Fait,
des 350.
Des 350 et pas des 500?
Non, parce que c'était un peu moins cher et puis c'est l'un de... Non, mais ça... Non, mais
il y a 3
000. Non, non, il y a 2-3 chevaux de différence. Oh, en Inde, ça va très bien.
Bah, très bien. Enfin bref. Et donc là, c'est pareil, il faut prendre l'assurance, je suppose. Il y a une assurance pour les motos.
Bah, ça, en fait,
on sait pas.
Non, normalement, c'est obligatoire. Normalement, c'est obligatoire. Bon, les loueurs ont une assurance, mais bon, savoir ce que c'est exactement.
Ouais,
puis,
que
c'est
ça
pas
vaut,
trop. Oui, on est assuré. Oui, mais bon. Donc bon,
en fait, on est assuré pour quoi? Pour
assuré pour quoi?
On se pose la question.
Ouais, mais bon, aujourd'hui, avec les cartes bleues, les choses comme ça, vous êtes assuré. Il y a pas de souci. Après, ben, il faut prendre une assurance supplémentaire avant de partir, hein. Mais bon, nous, on a toujours un bon karma, donc...
Pour nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent, il y a Daniel qui a été... on en a parlé tout à l'heure, avant l'émission, avec toutes les formalités qu'il faut faire, hein, le passeport, le permis international, le visa, alors sur Internet, alors là, attention.
On y reviendra, parce qu'il y a des
copains... Non, on en parle maintenant, là.
Et ben, on a des copains qui devaient venir avec nous, et alors, ils ont été refoulés. À Roissy.
Ouais.
Parce qu'il y avait une faute de frappe sur le visa par rapport au numéro du passeport. Un I à la place d'un 1.
Et donc vous étiez combien à partir?
Normalement 7 et on est parti qu'à 5.
Ah, les boules.
Les boules. Les boules pour tout le monde.
Ils avaient payé le prix d'avion déjà, le billet, tout ça.
Bien sûr.
Et alors?
C'est pour eux.
Ouais. D'accord, donc faire attention à l'orthographe, des noms.
Ouais, parce que
Daniel
Oui, tout à fait, oui. Puis je dirais, c'est une erreur de la part de celui qui a édité le visa en question, parce qu'il faut joindre une photocopie du passeport français, bien évidemment, à la demande, et ils auraient très bien pu constater qu'effectivement, il y avait une confusion entre un 1 et un I. Donc même nous, en regardant de près, c'était un peu quand même... on se posait la question, hein, de savoir si c'était un 1 ou un I. Ouais. Mais à la douane, avant de partir, à l'embarquement, elle se fait refouler, purement et simplement.
Hein. Petit conseil, le passeport informatique, est moins cher, hein, c'est 45 euros, je crois.
Le visa, en fait, il fait 85 $. Hein, aujourd'hui, alors bon, les prix varient. C'est vrai que suivant d'un état à l'autre, en Inde, les prix sont variables. Hein, mais aujourd'hui, tout se fait par Internet. Après, il y a des prestataires qui vous demandent 120, 130, 140 euros pour le faire. Hein, tandis que là, nous, on s'est débrouillé tout seul. Bon, c'est vrai que c'est quand même 4 pages à remplir.
Le passeport, c'est pas facile à faire. Hein,
ouais, c'est quand même 4 pages
c'est le bordel,
à remplir.
Hein.
Ouais. Alors, il y a des endroits où il faut mettre en majuscule, des endroits où il faut mettre en minuscule, il y a des endroits où il faut mettre une virgule, d'autres endroits, surtout pas mettre de virgule. Tout est en anglais.
Tout en anglais, en plus.
On va dire que le voyage commence à partir de là. Hein. Dis passeport.
Oui.
Là, oui. Parce que c'est les emmerdes qui commencent à arriver. Là. Tu vois, faut faire les trucs.
J'ai refoulé à Roissy parce que t'as une erreur de frappe.
Oui, voilà, c'est ça. Là, on commence à se dire bon. Ouais. Voilà. Donc vous avez préparé votre voyage d'ici de France, et donc forcément vous avez économisé de l'argent, parce que par les prestataires, on en a parlé, hein, Christian, ça a augmenté, hein, depuis 2-3 ans là, même 4 ans.
Ouais, ça a vachement augmenté, ouais. Et donc en faisant ça, 10 euros la Royal Enfield louée à New Delhi par jour.
La journée?
10 euros la journée, c'est pas cher. Hein.
Ouais.
Avec, en plus, ils nous filent un kit réparation, de chambre à air, des câbles, tout un tas de trucs. Il y a des mecs qui savent bricoler les Royales partout en Inde. Donc, on a eu une seule panne sur les 5 motos. J'ai localisé la panne rapidement. Puis, on était dans un Royal. Il manquait une pièce. Nous l'ont changé. Ça m'a quand même coûté 4 euros la pièce détachée avec la main-d'œuvre.
Ça, c'était pas prévu.
Non, ça, c'était pas prévu
dans le budget.
Ça. Pas prévu dans le budget. Une bière de
pas,
moins.
Pas de crevaison, rien. Pourtant, les motos avaient 50 000 km.
D'accord.
Donc impeccable, tout va bien. Des gros porte-bagages.
Et après, on va parler de ce que vous avez fait. Vous avez passé une nuit dans le désert. Vous avez fait une balade à dos d'éléphant. Bah oui, parce que là-bas, il y a des éléphants. Hein, voilà. Vous avez été voir un film à Bollywood.
Tout à fait.
Oui, c'était super, ça.
C'était super, Bollywood. Hein, et puis là, vous allez nous raconter une histoire. Enfin, c'est peut-être Annie qui va nous raconter l'histoire d'un gars qui aimait le whisky et qui avait une statue. Je sais pas, il revient.
Le temple de la Royal Enfield.
Au temple. Bon, voilà. Allez, musique, et on se retrouve juste après.
way the wind blows. Where the little girls in their Hollywood bungalows. Are you a lucky little lady in the city of light? Or just another lost angel? City of night. City of night. City of night. City of night. To your blues. I see your hair is burning. The hills are filled with fire. And if they say I never loved you, you know they are a liar.
Des photos, c'est pas radiophonique. Voilà, alors on commence avec merci Yannick pour cette carte du Rajasthan. Alors donc, d'abord on va raconter cette histoire là, la Bulette là.
Oui, la Bulette. Alors c'est un temple qui est vraiment dédié à la Royal Enfield. Alors l'histoire serait parce qu'il faut toujours mettre des parenthèses là-bas en Inde. Oui, parce que ils adorent raconter des histoires. Donc c'est un pauvre gars qui adorait le whisky, qui a bu énormément de whisky et s'est planté malheureusement contre un arbre avec sa moto en Bulette. Hein, donc la moto par terre, le gars par terre, lui il s'est pas relevé. Et par contre ils ont ramené la Bulette au commissariat et le lendemain matin, on sait pas pourquoi, la Bulette s'est retrouvée devant l'arbre où le gars était décédé. Donc il ramène la Bulette et le lendemain, comme ça, trois fois de suite, la Bulette repart, on ne sait pas comment. Mais elle revient.
Toute seule.
Elle revient. Toute seule. Il doit
fumer la moquette pas mal aussi là-bas.
La moquette, mais alors ce qui est bizarre, c'est que bon, là-bas, dans cette région-là, ils sont quand même. Comment dire, par rapport à l'alcool, ils ne boivent pas beaucoup d'alcool. Hein. L'alcool est interdit.
Et très cher.
Oui, et très très cher. Mais bon, celui-là avait bien trouvé de l'alcool. Donc à aujourd'hui, cette Bulette qui a été accidentée est là, sous globe. Hein, et tout le monde vient faire des incantations.
Maintenant, la bulette, elle est sous globe.
Ah, oui.
Et tout le monde vient faire des prières.
Ah oui, tout le monde
prières,
vient la voir, vient faire des prières, vient faire des offrandes. Et évidemment, bah, ils viennent offrir du whisky. Donc, il y a une petite statue, il y a un moine qui est là, et il y a des prières, et le whisky coule à flot sur la statue. Ah ouais, ouais, ouais.
Non, mais c'est... Par contre, le whisky indien, il est très bon.
Très bon, très bon. Ouais, peut-être pas pour les neurones.
Tu as goûté? Oui, on a goûté.
Pas forcément pour les neurones.
On a même trop goûté.
Depuis ce temps-là, tu confonds tous les mots. Tous les noms.
Bon, allez, on part. Donc, tiens, tu m'as fait le parcours alors. Donc là, alors, il faut savoir que le Rajasthan est bordé par le Pakistan. Et on sait qu'en ce moment.
Quand on était là-bas, il y a eu des histoires.
Retour, notre vol a été détourné à cause de ça.
C'est pas.
Des bombardements.
Ils sont pas trop d'accord, l'Inde, le Pakistan. Voilà. Donc, c'est pas du tout, tout à fait le même parcours que pour aller au Ladakh.
Non, le Ladakh est bien plus au nord.
Et puis on est à 4000, 5000, on est dans les chaînes de l'Himalaya, alors que là, c'est plutôt un terrain plat.
Oui, un terrain plat. Il y a juste la chaîne des Aravelli qui partage par moitié le Rajasthan, mais on arrive à quoi, 1300 mètres, quoi, maximum.
1300 mètres, voilà.
Hein, mais bon, bah, c'est quand même assez désertique. C'est vrai qu'il ne faut pas aller là-bas pour avoir de la végétation. Hein.
Voilà.
C'est sec.
Comment vous avez fait pour monter sur sur l'éléphant?
Là c'est pour rentrer dans un fort en fait. Évidemment aujourd'hui tout est bien organisé pour les touristes, parce que ça c'est vrai que c'est quand même un truc assez touristique. On a fait beaucoup de choses qui ne sont pas touristiques, mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas y échapper. C'est bien organisé. Hein, en fait, vous avez une plateforme qui arrive à hauteur des éléphants. Voilà, tout simplement.
Ah oui, c'est simple.
Ah oui, c'est très simple, c'est très simple.
En fait, il y a un élévateur,
c'est
en plus
non,
facile
non,
que
non.
monter sur la Royale.
Oui, il faut même pas lever la jambe.
D'accord. Daniel, Bollywood alors.
Alors Bollywood, c'était super, c'est une idée géniale, absolument géniale. Enfin,
pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est Bollywood, il faut expliquer.
C'est Hollywood.
Voilà, c'est un style de film.
Il y a un téléphone qui sonne.
Déjà,
j'entends de la musique.
Mais non, voilà. C'est la vidéo qui tourne.
Ah, c'est la vidéo qui tourne, d'accord.
Alors déjà, en soi, le cinéma Bollywood, par lui-même, c'est extraordinaire au niveau architecture. Ça rappelle un petit peu les cinémas qu'on a connus dans les années 60, qui n'existent plus quasiment chez nous. Ensuite, on est allé en première classe, on va dire, dans un fauteuil très, très, très confortable qu'on peut régler. Et alors, la chose la plus extraordinaire, c'est que le public participe au film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un méchant, il y a des bons. Quand le méchant, ils applaudissent, ils sont heureux. Il y a une ambiance qui est surprenante. Ils vivent la scène. C'est vivant. C'est vivant. Et c'était pas sous-titré, bien évidemment. Mais
compris alors.
Non, mais on a bien compris franchement, on a compris l'histoire. C'est vraiment un cinéma de qualité quand même. C'est l'édifice que le film par lui-même. C'est vraiment une excellente idée, une excellente trouvaille. Et on a passé une soirée.
C'était
vraiment...
Annick aussi qui avait trouvé.
Oui.
La séance.
Alors Annick, nous on savait pas du tout le programme. Elle nous a toujours caché le programme.
On découvrait de jour en jour.
D'accord.
Et on sait même pas où on allait du reste. Sauf les deux premiers jours quand on avait peur de se perdre, parce que quand on est dans le flou de la circulation, c'est un peu spécial. Donc on avait que deux GPS, un au début et un à la fin pour éviter de se paumer quoi. Parce que faut pas compter sur les panneaux indicateurs, donc là ils sont quasiment inexistants. Donc on se suivait, il fallait rester en groupe. C'est un petit groupe de 5 bécanes, donc c'était tout à fait possible. Les deux premiers jours, on a eu un petit post-it en disant on va telle ville. Et comme on s'est jamais paumé, on s'est toujours resté en gros. Après, c'était vraiment la surprise la plus totale.
Voilà.
Donc, on savait pas ni le nombre de kilomètres.
Ce fameux monument, le Taj Mahal, oui, vous avez visité?
Oui,
une architecture assez extraordinaire, Patrick, que j'avais jamais vu peut-être. On va venir vers les photos. C'est un édifice qu'on doit visiter le matin, en fait, c'est ça?
Surtout le matin,
parce qu'après, il y a une espèce de brume, vous dites.
Oui.
Et puis surtout beaucoup de monde. Énormément.
Et beaucoup de monde aussi,
Et donc là, on est allé avant le lever du soleil.
Oui, oui, on s'est levé tôt. On s'est levé tôt. Je les ai fait lever tôt plusieurs fois. Hein. Ils n'étaient pas toujours très contents, mais bon.
Et on a bien fait parce qu'il y avait quand même déjà une file d'attente qui était assez impressionnante.
Ouais.
Hein.
Ouais, ouais.
Donc parce que bon, il y a la sécurité
aussi,
qui est.
Aussi, on ne peut plus approcher les monuments à moins de 10 km à cause de la pollution.
Oui, donc voilà, c'est ça.
Les échappements bouffent le marbre du
marbre.
Donc ce sont des véhicules électriques qui t'amènent ou tu vas à pied. Annick, vous avez trouvé un hôtel à 2 minutes à pied.
Oh, extraordinaire.
On voit même le monument du rooftop.
Elle est bien, hein.
Avec un petit cocktail.
En plus, avec un petit cocktail. Très bien. Il y a une histoire de lac salé.
Oui, on est allé rouler sur le lac salé là-bas.
Il y a un lac salé là-bas aussi en Inde.
Oui.
Il n'y a pas quand.
C'est pas aussi plat.
Mais c'est pas aussi plat.
Il y en a plein des lacs salés dans le monde. Oui. En Bolivie, en Inde, il y en avait
plusieurs. Mais aussi grand.
Ouais.
C'est plus petit. Puis Bonneville, c'est Bonneville.
Parce que là,
Bonneville, c'est mythique.
En Espagne, il y a quand même une bonne partie de désert, apparemment.
Oui.
Et c'est une région de l'Inde qui n'est pas trop arrosée aussi au niveau de la.
Ah non, c'est ce que je disais tout à l'heure. La végétation, il ne faut pas aller pour aller voir la végétation là-bas. Mais bon, il y a tellement.
La température au mois de février ?
Mois de février, on était dans les 25 degrés en moyenne, dans la journée.
Le matin un peu frais,
hein. Surtout au début quand on était plus à Delhi, c'était un peu plus frais.
On n'a pas souffert ni du froid ni de la chaleur.
C'était très bien.
Musique.
One bad motherfucker, team supreme, so fresh, so clean, so pro, you know, I'm like Mean Joe Green. Pass the peas, hold the cheese, you can roll with Riker, you can swing on these nuts, rocking all you bitches with the old school cuts, so please shut up, I got a lot of love, but I'm all out of fucks, rolling like the Doobie Brothers, doing it my way, rocking down the highway, rolling right through you. Bitch ass broke my fuckers. Slow down, baby. 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 I'm a true blue blooded all American badass. I heard you calling me white trash. Come and say it to my face, bitch. And I fuck you in your ass quick with Taylor Swift's dick. They call me Nutty Professor, staring down the barrel of an old Winchester. Another big buck down, so fuck Lady Luck, I don't need her around. Wolfgang fucking, I ain't fucking around. Straight laying it down, while you're punching the clown.
conseils, passer par un prestataire ou faire comme Annick qui a préparé le voyage sur Internet?
Il n'y a pas mieux que Annick Voyage.
Voilà.
Elle a ouvert
Annick Voyage.
Elle a ouvert l'association.
D'accord.
Non, mais bon, c'est pas le premier
voyage prestataire
que j'organise. Hein. L'année d'avant, on avait fait le Sri Lanka comme ça.
Ah oui.
Là, on s'en va à Bali très prochainement.
Ah, vous allez à Bali.
Ouais.
Mais Cambodge aussi.
Ouais.
Cambodge comme ça.
Cambodge aussi, où on s'est fait débrouiller tout seul. Non, mais il faut voyager. Et puis bon, l'Inde, faut y aller. Les gens sont tellement accueillants, c'est tellement agréable. C'est un autre monde.
Alors, les femmes, il faut faire attention.
N'ayez pas peur de l'étranger.
Non, il y a des. Bon, il faut faire attention en Inde avec les femmes parce que, quand même.
Oui, il ne faut pas voyager seule en tant que femme, quoi. Mais bon, je veux dire.
Il ne faut pas. Enfin, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal d'histoires.
Oui, bon, on roule à moto, on n'est pas en mini-jupe non plus. Donc, on
n'est pas. Il faut s'habiller un peu local.
Il faut rester correct. Mais c'est sûr. Bon, je veux dire, après, dans les temples, c'est pareil. Il faut couvrir ses épaules, des choses comme ça. Mais non, mais il faut y aller, faut pas avoir peur, non, les gens sont tellement accueillants, ils nous voient arriver, ils nous font des signes.
Alors, c'est vrai qu'on est pris en photo là-bas.
Ah oui, on est pris en photo.
Les Européens, ils sont
Ah oui, on est les vedettes là-bas, on est les vedettes, mais on nous offre le chai, la boisson locale, c'est. Non, faut y aller.
Alors, quitte à choisir, Christian, il vaut mieux aller au Ladakh ou au Rajasthan?
C'est pas faire les deux. Ah non, il y a pas. Mais les trois, même aussi l'Inde du Sud, le Sri Lanka.
Moi, je suis allé au Ladakh. Bon, d'accord. Mais le Rajasthan, je ne connais pas et c'est pas du tout le même pays, quoi. Enfin, c'est l'Inde, mais c'est pas la même province. Donc,
c'est complémentaire.
L'Himalaya, c'est assez impressionnant. Hein, et là, c'est plat, le Rajasthan.
Non, c'est complémentaire. Il y a d'autres choses à voir. Et non, faut pas hésiter. Et puis.
Moi, j'ai une petite question comme ça, vite fait. Qu'est-ce qui vous a amené à barouder comme ça? Enfin, vous êtes des baroudeurs de la route, quoi.
Ça fait des années. On aime ça. Dès qu'on peut, c'est la moto. Il y a des voyages.
Toujours
mais,
en moto.
Mais.
Motivation. Ouais. Voilà.
Il y a tellement de choses à voir sur la planète. Faut pas hésiter, quoi.
Oui.
Ami motard,
vous allez organiser un événement moto en 2020.
Pensez au calendrier Kikinko.
Transmettez-nous vos infos.
On les publiera gratuitement dans le calendrier des motoclubs.
Comment faire?
Tapez K1C sur Internet.
Et vous trouverez sur notre site le formulaire adapté.
Ou tout simplement, vous nous envoyez votre texte à l'adresse mail suivante.
calendar@k1c.fr calendar@k1c.fr.
Cause love is coming, we need to send it.
Vous êtes bien sur Radio Campus, l'émission des motards où on met aussi de la très bonne musique. Merci Laurent. Nous avons au téléphone Joël Courroy dont on parlait tout à l'heure, une figure emblématique du monde.
Joël, bonjour. Voilà, je vais te brosser un peu
ton portrait
rapidement. Tu me diras si j'oublie quelque chose. Hein. Donc, Joël a été pilote de motocross, même officiel Maico, c'est une marque allemande. Pilote d'enduro et de trial, constructeur d'une moto de trial, c'est la JCM, à plus de 1000 exemplaires. Où en 1983, Charles Goutard, qui était champion de France de trial, a monté les deux étages de la Tour Eiffel au guidon de cette moto.
C'est vrai que ça va plus vite qu'avec l'ascenseur. Hein, parce qu'il y a du monde pour prendre l'ascenseur.
Ou à pied plutôt. Il organise aussi, Joël, des crosses et des trials anciennes. Un des créateurs de l'AFATA, qui est l'amateur des amateurs de trial à l'ancienne, et aussi créateur de La Femme, c'est l'amateur des crosses à l'ancienne, a créé un musée entièrement consacré au tout-terrain, dont une bonne centaine de machines sont exposées dans ses ateliers. Il a fait une école de crosses et de trial, il organise des balades, et aussi il est concessionnaire des quatre marques japonaises, chose assez rare en France, plus toute la gamme de motos de trial et d'enduro. Il restaure aussi des motos anciennes et dispute régulièrement les deux jours de trial classique en Écosse. Et cerise sur le gâteau, avec son épouse, il a même donné naissance à des jumeaux, Cyril et Christophe. Est-ce que je me trompe, Joël ?
Beaucoup de choses tout ça.
Et j'ai pas fini, hein. Alors tu peux en rajouter. Hein.
Non, mais simplement rajouter la Tour Eiffel, il y avait deux pilotes, il y avait Charles Coutard. Alors la Tour Eiffel, c'était il y a 30 ans. C'était un peu plus de 30 ans, c'était le 26 octobre 1983, et on avait lancé sur le marché la JCM en réalisant la montée des deux premiers étages de la Tour Eiffel par les escaliers. Alors, contrairement à ce que disait ton ami, ça allait moins vite que l'ascenseur, parce que pour gravir les deux étages, 742 marches, il fallait une bonne demi-heure. Donc c'était quand même assez long, c'était pénible, ça passait pas, c'était très difficile. Et il y avait deux pilotes, il y avait Charles Coutard, il y avait Joël Desquin.
Ouais, Joël Desquin, oui.
De Lourdes, qui était à l'époque champion de France de trial indoor, toujours sur la JCM, voilà.
Et comment tu voulais aussi réaliser deuxième montée, mais que ça n'a pas marché, je crois, hein, cette année même.
Donc pour les 30 ans, on avait l'idée de refaire une montée commémorative de la montée, là, qui était considérée à l'époque comme un exploit. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait eu un coup de publicité extraordinaire. Il y avait 200 journalistes qui étaient là. Il y avait 10 chaînes de télé. Il y avait la chaîne américaine Incroyable mais vrai. Ça avait été un coup médiatique et on ne s'y attendait pas. La raison, c'est qu'on avait un ami qui avait d'ailleurs réussi à avoir les autorisations pour organiser la montée auprès de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, qui était rédacteur en chef de l'agence France Presse, Patrick Menet, donc, qui avait envoyé à l'époque, on ne parlait pas de mail ni de fax, on envoyait des téléx. Il avait envoyé des téléx à toutes les agences de presse du monde en disant « Demain, une moto de fabrication française va monter les deux premiers étages de la Tour Eiffel ». La Tour Eiffel est un monument mondialement connu, bien sûr, hein, comme la Muraille de Chine ou la Statue de la Liberté. Et ça a déclenché toute la presse mondiale qui est venue voir. Et nous, on ne le savait pas, ça. On avait prévenu nos copains de la presse moto, de Motorvue, Motojournal, Motoverte. À l'époque, il n'y avait que trois journaux moto. Et on avait dit « Écoutez, on va essayer de monter, on fait cet essai-là. Si ça ne va pas, vous ne dites rien. Et puis si ça va bien, vous ferez un petit article dans vos journaux ». Et en fait, quand on s'est retrouvé le matin du 26 octobre 83 sur le Champ de Mars avec 200 journalistes qui attendaient à ce qu'on réalise la montée, et on n'était pas sûr que ça marcherait, on a commencé à se poser des questions. On a dit si on souffre, on est mondialement ridiculisé. Et en fait, avant de monter, on a dû faire une conférence de presse devant tous ces journalistes en expliquant qui on était, ce qu'on allait faire, pourquoi une moto de trial française, quelles étaient les caractéristiques de la moto. Donc on a eu une conférence de presse là-dessus. Et après on s'est lancé. Et heureusement que j'avais les deux meilleurs pilotes français de l'époque. Qui ont réussi à monter, et c'était très pénible, c'était très difficile, notamment entre le rez-de-chaussée et le premier étage, les escaliers sont très serrés et ça ne tournait pas, il fallait faire ce qu'on appelle des pivots, il fallait monter la roue avant sur les grillages pour arriver à monter. Et donc, heureusement qu'on avait des pilotes de très bon niveau qui ont pu faire ça. Et donc, ça a réussi. Et voilà, ça a été un coup de pub énorme.
Et vous n'aviez pas fait d'essai auparavant, avant d'inviter toute la presse? Vous n'aviez pas fait d'essai du tout?
On ne savait pas, parce qu'on ne pensait pas qu'il y aurait toute la presse. On pensait qu'il y aurait nos copains de la presse moto qu'on connaissait depuis tout le temps, en leur disant, si ça ne va pas, vous ne dites rien. Puis si ça va, vous ferez un papier, c'est tout. Hein.
Et c'est grâce à ça que tu as vendu 1000 motos alors?
Non. Alors c'est toute une histoire. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'on a fait un tellement gros coup de pub que le lendemain, tout le monde voulait acheter des motos. Et on n'en avait encore pas produit une. On était les premiers modèles sont sortis fin 83 et on était au mois d'octobre 83. Donc en commerce, le pire de tout, c'est de dire aux gens, attendez, on a un produit formidable, parce que ça a été la première moto de trial au monde avec un mono-amortisseur. Maintenant, toutes les motos sont comme ça. C'est une technique qui a été suivie forcément. Et c'est un mono-amortisseur progressif, en plus un mono-amortisseur oléo-pneumatique où on avait un brevet dessus, et c'était un truc vraiment qui, à l'époque, a fait vraiment progresser la technique du trial. Je prends un exemple, les motos d'époque, les Bultaco, les Monteza, un pilote qui avait l'habitude de passer une marche d'un mètre de haut avec sa moto, il prenait une JCM, il passait une marche d'un mètre cinquante. C'était vraiment...
Un progrès technologique.
Une avancée technique considérable dans le trial. Bon, après, les autres constructeurs ont suivi. Donc, mais nous, on était des petits artisans. C'est-à-dire que, on pensait, il faut savoir que début 83, on pensait pas produire des motos. Moi, l'idée était de faire ma moto personnelle, me faire une moto qui avait une avancée technique. Mais j'avais jamais pensé à développer une usine de moto, une fabrication en série. Et puis, en fait, notre moto a été essayée par des bons pilotes, dont Charles Coutard, et tout le monde s'est aperçu que cette moto avait vraiment une avancée technique, et il y a eu des éloges sur la presse de l'époque, hein, en 82, en 83, et bon, les gens nous ont poussé en disant, il faut essayer de faire des petites séries, on serait acheteur et tout, on est parti un petit peu la fleur au fusil, mais on n'avait pas les moyens suffisants pour faire une usine de moto. Et en fait, on a commencé à produire à peu près, de façon continue en 84, et 84, on a dû faire 300 motos, 85, on a fait 450 motos, mais il faut savoir qu'en 85, on a fait 450 motos, mais on avait 2000 bons de commande, c'est-à-dire qu'on n'a même pas livré un client sur quatre.
C'est ça le succès.
Et notre souci était de franchir, de passer à la vitesse supérieure et de franchir l'étape, de devenir entre gros artisans et industriels, il y a un cap énorme, donc un cap d'investissement. Et tant qu'on n'avait pas les moyens pour investir, on ne pouvait pas franchir ce cap. Et bon, on compensait en travaillant nuit et jour. Hein. Je raconte souvent une histoire, j'avais une douzaine d'employés. À certains moments, quand on avait tous les composants pour monter les motos et puis les clients qui voulaient acheter ces motos, on bossait comme des fous. On a bossé à certains moments 48 heures sans s'arrêter. C'est-à-dire que les clients, les employés ne rentraient même pas chez eux, dormaient quelques heures sur place et partaient au boulot et tout. Enfin, c'était un truc incroyable, il y avait une solidarité énorme. Et on s'est battu vraiment pour arriver non seulement à produire des bonnes motos, mais arriver à en produire en quantité suffisante pour que l'affaire soit viable. Et en fait, c'était notre problème. On savait que le seuil de rentabilité était à 500 machines. Là, on ne gagnait pas d'argent, mais on n'en perdait pas. En dessous de 500, on en perdait. Donc, pendant toute la production de JCM, on a perdu de l'argent. Et très vite, on a cherché à trouver un partenaire industriel. Alors là, il y a une aventure à écrire, il y a un livre à écrire. On a trouvé toutes sortes de personnes qui se sont manifestées, sachant que j'avais un ami qui était président du conseil général de Haute-Saône, Christian Bergelin, qui est décédé maintenant, mais qui avait pris le projet à cœur et qui était à l'époque ministre de Jeunesse et Sport sous l'époque de la présidence de Chirac, et qui avait dit « si la JCM trouve un partenaire sérieux, industriel sérieux pour pérenniser la fabrication, Jeunesse et Sport offre 1 million de francs à ce partenaire, un petit droit de prime pour vraiment encourager. » Donc voilà. Alors on a eu, à l'époque, il y a 30 ans, 1 million de francs, c'était beaucoup. Et on a eu plein de chasseurs de primes qui sont venus, des gens qui ne connaissaient rien et puis qui n'avaient pas les moyens d'industrialiser le produit, mais qui cherchaient le million de francs à Bergelin pour remontrer leur trésorerie ou pour diverses raisons. Donc on a été bousculé au sein de discussions politiques industrielles, et nous on demandait qu'à produire des motos et puis en fait on maîtrisait pas tout. Et le jour où j'ai trouvé un partenaire industriel, il est arrivé ce qui arrive dans bien des cas. Enfin, je schématise très vite, hein, mais il est arrivé dans ce qui arrive dans bien des cas, c'est-à-dire que je suis tombé sur un vautour qui m'a absorbé la chose et puis au bout de 6 mois qui m'a demandé de partir. Il avait toutes les cartes en main quand il a su, quand j'ai eu donné tout mon savoir-faire et puis toute la façon de fabriquer, le réseau de sous-traitants, le réseau de concessionnaires, le réseau d'exportateurs, parce qu'on exportait beaucoup. Je me suis fait piquer tout ça, je me suis pas suffisamment protégé et voilà. Donc
ok Joël, on va passer à un morceau de musique et puis on te reprend tout de suite Joël, ok?
À tout à l'heure.
Joël, t'es toujours avec nous ? Oui, on disait hors antenne que vraiment t'avais la passion de la moto et ça s'entendait quand t'en parlais, quoi. Vraiment, ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui aime autant son métier et son hobby, quoi.
J'ai eu une chance extraordinaire par rapport à beaucoup de gens, c'est que je n'ai travaillé que dans ma passion. C'est-à-dire que en sortant de l'école, juste après mes études, Enfin, même pendant les études, j'étais pilote professionnel de motocross déjà.
Ouais, j'allais le dire un petit peu. J'ai vu un peu l'interview qu'a fait Guy de toi, mais tu t'es aussi donné les moyens de ta passion parce que j'avais vu hein, que tu avais été, t'avais passé un concours pour entrer dans une école d'ingénieur, que tu avais été reçu. Et pour pouvoir continuer quand même à vivre, à faire ta passion, t'as déchiré l'inscription pendant que tes parents n'étaient pas là pour pouvoir quand même continuer. C'est quand même de se donner de corps et âme à la moto, quoi.
Je pense, alors bon, c'est sûr que quand on a 20 ans ou 18 ans, on prend pas les mêmes décisions qu'à 50 ans ou 60, mais j'ai pas réfléchi longtemps, c'est sûr que l'affaire de l'école d'ingénieur, en fait, mon grand-père est ingénieur des arts et métiers, à Peugeot bien entendu, puisque dans le pays de Montbéliard, tout le monde travaille à Peugeot, et ben, il fallait que le petit-fils soit ingénieur aussi, et mon père souhaitait ardemment à ce que je sois ingénieur. Et puis en plus, bon, bah, ça me plaisait bien, et puis je me débrouillais pas trop mal dans les études. Et donc j'ai un BTS en fabrication mécanique, et mon père me demande de m'inscrire à l'école d'ingénieurs de Belfort. J'ai réussi le concours sans problème, et je reçois la réponse du concours, comme quoi j'étais admis à passer 3 ans d'études à l'école d'ingénieurs de Belfort. Au mois de juillet, mes parents étaient en vacances. Et donc j'ai déchiré la feuille, et j'ai dit à mes parents que j'avais raté le concours. Leur grand désespoir, leur fils n'était pas doué pour faire ingénieur, et puis ça s'est passé comme ça, j'ai continué à faire du motocross.
Et c'est dommage, Joël, actuellement tu serais en train de pêcher au bord de la Saône, et assis sur un fauteuil et tout.
Parce que mes copains de l'époque, ils sont tous retraités maintenant, ils sont peinards, voilà. Mais bon, je voudrais pas du tout cette vie-là, et j'aime bien, bon, c'est vrai que j'ai une vie active dans la moto actuellement, comme tu le disais, ben, il y a le magasin 1370 qui me prend beaucoup de temps, qui m'a toujours pris. On arrive dans notre 39e année de 1370. Et bon, les affaires sont ce qu'elles sont maintenant en France, hein, on le sait.
Ouais, comme partout, ouais, dans le Nord aussi. Ouais.
En fait, ça me plaît, quoi. C'est un challenge comme en motocross, comme en trial, quand il y a des courses difficiles, bah, c'est là qu'on fait la différence. Et je continue toujours à me battre comme le premier jour. Et, voilà, c'est tout, c'est dans mon caractère. Je crois pas que j'étais fait pour aller à la pêche en bord de Saône. J'y suis allé quelques fois, mais ça m'a pas trop plu. Hein.
De tous tes hobbies, quel est ton meilleur souvenir en cross, trial ou construction de la moto? Ton meilleur souvenir, Joël?
Alors là, oui, tu me prends un peu de cours. On parlait de la Tour Eiffel, oui, ça a été un grand moment. La JCM, c'était quand même quelque chose de particulier. Il y a un truc de très fort là-dedans. En fait, moi j'étais parti, vraiment comme je le disais tout à l'heure, j'avais pas vraiment l'idée de construire des motos en série, je voulais me faire une moto. Et en fait, si on prend le cheminement, c'est le suivant. On a des idées dans la tête, hein. Moi, je faisais du trial, j'avais fait du motocross, j'étais bien impliqué dans le tout-terrain, je connaissais bien la mécanique puisque je vendais des motos des marques présentes à l'époque. Et bon, j'avais des idées. À l'époque, j'avais un atelier qui s'appelait CMP, Corroy Mécanique Précision, où j'avais un petit peu appliqué ce que j'avais appris à l'école, c'est-à-dire c'est un atelier de mécanique de précision où on faisait des pièces spéciales pour équiper les motos tout-terrain. On adoptait des admissions à clapet sur les motos de trial pour les rendre plus souples, on faisait des bouchons de fourche rallongés, on faisait des bouchons de fourche à air, on faisait des sabots moteurs protection, ça n'existait pas à l'époque. Enfin bon, j'avais tout un catalogue là-dessus, puis à force de faire ça, je me suis dit tiens, je vais me faire une moto plus évoluée, notamment avec cette histoire du mono-amortisseur. Qui existait à l'époque en cross, c'était les débuts en cross, hein, et il y a eu les cantilevers de chez Yamaha, mais il y avait les ProLink, il y avait les full flotteurs de chez Suzuki, et moi j'ai voulu imaginer quelque chose pour le trial, ça s'était jamais fait. Donc pour revenir à ça, il y a un truc qui est très fort, c'est entre l'idée, on a une idée, on fait des croquis, on le met sur la planche à dessin, on fait un prototype. Le prototype, il roule. Le prototype, éventuellement, il gagne des courses. C'était le cas. La première course que j'ai fait avec le deuxième prototype, j'ai gagné tout de suite. C'est une moto qui était bien évoluée, qui avait déjà un frein à disque à l'époque, en 82. Les freins à disque sont apparus dans les années 90 en trial. Moi, on était précurseur là-dessus. Donc, partir de l'idée, faire une moto, un prototype, qui gagne des courses, après que vous fabriquez, que les gens vous achètent, et en plus qui se font plaisir avec, et même qui ont des bons résultats sportifs, le cheminement, il est énorme, et il est absolument fabuleux pour le concepteur. C'est-à-dire que de votre idée, vous avez réussi à faire un produit fini, que des gens vous ont acheté, qui sont heureux de l'avoir, et qui se font plaisir avec. Et ça, alors, c'est... je crois que c'est ce qui me reste le plus fort de ce que j'ai fait dans ma vie. La construction des motos. Et quand ça s'est arrêté, j'étais vraiment orphelin de quelque chose. J'avais plus cette conception. Alors, ça m'a recherché. J'ai refait plein j'avais plein d'idées. J'ai refait plein d'esquisses, de dessins, de trucs et tout. Mais bon, j'avais eu une leçon. La leçon dans la vie, c'est que quand on a une bonne idée, mais qu'on n'a pas les moyens de la réaliser, si un matin vous vous levez, vous avez une bonne idée, mais vous n'avez pas les moyens de la réaliser, vous allez vite vous recoucher. Parce que c'est le début des ennuis qui commence. Et en fait, on n'a jamais eu vraiment les moyens de réaliser nos idées à la JCM. Et si on avait eu les moyens, la JCM, j'en suis persuadé, existerait toujours. Parce qu'on avait des moyens d'avant-garde, on avait des idées d'avant-garde, on avait l'idée aussi de développer une machine d'enduro, on avait notre propre moteur qui était dessiné, bon, c'était sur les rails. Le problème, c'est qu'il manquait des moyens. Et en France, alors moi, j'ai toujours une expression, je suis champion de France des poignées de main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, ben, les gens me disaient, oh, monsieur Courroy, fantastique, vous faites une moto française, fantastique, si tout le monde faisait comme vous, c'est bien. Là, je disais, oui, mais ok, mais j'ai pas les moyens de faire. Et en France, on n'avait pas ce que les Américains avaient à l'époque, ou ont toujours maintenant, c'est-à-dire des capitaux à risque. Capitaux à risque, c'est de dire, ben, voilà, on mise sur un projet, bon, on mise sur 10 projets, il y en a peut-être 3 qui seront excellents, 3 qui seront mauvais, puis quelques-uns qui arriveront à survivre, mais les gens sont prêts à mettre de l'argent sur des choses qui paraissent productives pour l'avenir. Et la JCM, on faisait partie, c'était sûr. J'ai eu un prix offert, qui m'a été attribué en 84 par le CGPME, c'était l'association des dirigeants de France, qui offrait un prix à la meilleure jeune entreprise de moins de 3 ans, mais au produit le plus innovant, le produit qui était le plus vendeur. Donc on avait eu un prix spécial d'exception parce que enfin, on faisait figure de
précurseur
dans le monde de la moto et que les gens voulaient nous en acheter. Et voilà, mais bon, on n'a jamais pu franchir cette étape. Et quand je l'ai franchi, j'ai trouvé donc un associé, comme je le disais. Je me suis fait évincer très vite. Et en fait, la JCM n'a pas eu d'avenir parce que l'associé en question avait bien les moyens de faire, mais n'avait pas le savoir-faire, elle n'avait plus le savoir-faire puisqu'il m'avait évincé. Et en fait, ça n'a pas continué. Voilà, c'est dommage.
Joël, on t'écoute. Joël, on t'écouterait pendant des heures, hein, tu sais. Bon, on a parlé que de la JCM, mais si on voulait parler de ta carrière. Mais éventuellement, bon, bah, écoute, Joël, là, on est. Tous les auditeurs là sont à l'écoute de l'aventure de la JCM, mais éventuellement aussi les auditeurs peuvent venir te voir d'abord dans ton musée à Vesoul, et j'espère que tu viendras faire le trial de Vingles, le trial en ancienne qui va se dérouler en mars, je crois.
Mois de mars, voilà, oui, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai gagné plusieurs fois d'ailleurs avec mon Ariel.
Et voilà.
Et ben, j'y retournerai, ça me fera plaisir. J'avais un bon accueil dans le Nord, j'ai des amis là-bas à Lille.
Et voilà.
Et en plus, j'aime bien retourner là-bas, je suis pas très loin de la Belgique. J'ai couru beaucoup en Belgique dans mes années de motocross et j'en garde des souvenirs extraordinaires. Les gens du Nord, les Belges sont très fervents de moto. Je me rappelle des ambiances en motocross en Belgique. C'était des grandes kermesses, des grandes fêtes, c'était fantastique.
Voilà. En effet. Et puis aussi au motocross de classique, là, tout près de Cambrai, chez Alain Deloge. Joël, on te remercie de ton intervention et puis on te rappellera, tu continueras à nous parler.
À la radio, hein, si je viens là-bas, je viendrai vous rendre visite.
Pas de problème.
Merci, à bientôt.
Allez, salut Joël. Bye.
super, super invité. Voilà, c'est Joss Hart.
Bonjour.
On applaudit, messieurs. On applaudit,
merci,
voilà,
merci,
Joss
merci.
Hart. Alors, que fait Joss Hart aujourd'hui pour ce spécial salon des Cancours? Eh bien, Joss a annoncé, fait son comeback, il revient. Dans l'acrobatie.
Oui,
bonjour Joss.
Bonjour à toutes et à tous. C'est plutôt, je dirais, un one shot, hein, puisque ça sera un Pécancourt parmi tant d'autres pour moi, puisque j'ai eu l'occasion d'animer le salon de Pécancourt de 92 à 2002. Et Patrick me dira si je me trompe, mais si on est au 35e, lors du 25e, j'avais fait effectivement une apparition pour les 25 ans. Donc 10 ans après, on va tenter de remettre le feu à la foule et surtout essayer de comparer les anciens stunters qui sont encore en vie.
C'est un petit jeune,
faut le dire.
C'est un petit jeune qui t'a mis un petit peu la pression, Joss, un peu. Dis-le, c'est Karim qui est là.
Oui,
bonjour Karim.
C'est...
Bonjour. Voilà, lui,
approche-toi du micro.
Alors,
approche-toi du micro. Il n'est pas habitué.
Approche-toi
du bordel.
C'est beaucoup moins compliqué que de faire des acrobaties du stunt. Moi, je ne pourrais pas le faire de toute façon.
Alors, effectivement, tout est de sa faute puisque lors d'une.
Levez le doigt. Accusez-le de vous.
Lors d'un gueuleton à midi, lorsqu'on est en train de faire les travaux dans la nouvelle concession. Il m'a lancé un défi en me disant ouais, de toute façon papy tu serais plus capable de faire une roue arrière. Je lui ai dit attends Coco, du temps où j'évoluais t'étais encore en train de chianter dans tes couches, donc je serais capable
bonjour
de
bonjour à tous là, il est en train de
chier. je serais capable
là,
encore
oh là,
je sens que ça va être chaud cette émission.
Je serais encore capable de prendre la vedette, tout au moins en termes de public, parce que effectivement les stunters d'aujourd'hui sont très très techniques, très évolués. J'ai pas du tout la prétention de savoir faire le dixième de ce qu'ils savent faire. Par contre, je pense qu'en termes de show et de spectacle, il y a quand même eu un petit peu de laisser pour compte. Voilà, donc mon objectif, c'est pas de venir en mettre plein la vue aux gens en termes de figure, de style, etc. Mais c'est de rappeler au bon souvenir les spectacles qu'on faisait par avant, les burn-out de folie, les pneus à gogo,
voilà,
etc.
Ça, ça a changé. Je me suis renseigné un petit peu sur le stunt de maintenant. Est-ce que tu faisais dans les années 90, hein, toi, t'étais à 200 km/h, hein, t'avais des semelles d'acier, tu faisais des étincelles. Alors ça plaisait à tout le monde.
Exactement.
Ça plaisait au grand-père. Aux jeunes d'aujourd'hui, ça plaît plus forcément.
Maintenant, on est plus sur du stunt danse, un peu au ralenti, on lève la moto.
Oui, non, mais tu as raison, Amish. C'est plus des danseuses aujourd'hui, effectivement. D'ailleurs, il a tout à fait. Je le vois bien qu'à tutu. Il doit être magnifique. Il doit être magnifique.
Bon, alors Joss nous a rappelé ses objectifs. Moi, je vais vous rappeler les miens.
Eh bien, l'émission est terminée. Merci à toutes et à tous.
Il reste une semaine.
Laisse-moi parler.
On va laisser parler Patrick. Non, mais je voudrais que tu me racontes comment. Parce que l'histoire de Pécancourt et Joss Hart, c'est un truc, c'est un, comment dire, vous avez commencé ensemble, enfin, le motoclub, le salon. Et raconte-nous un peu, Patrick, comment ça s'est passé.
Je vais le laisser raconter. C'est lui qui a commencé.
C'est lui qui vous a appelé au local.
Et qui
vous a demandé de faire des démos donc au salon.
Voilà, oui, un courrier avec sur une ancienne machine à écrire dont le ruban était bien fatigué.
Tu m'as dit oui. Tu comprenais rien du tout.
En disant voilà, je suis cascadeur, j'habite à Lone Plage et je voudrais participer au salon de la moto. Alors Joël, qui avait vu passer ce courrier, a dit, mais enfin, attention, on ne peut pas prendre n'importe qui, il y a des risques, des dangers, c'est vrai. Hein. Mais il a continué à insister, deuxième courrier, toujours aussi, voilà. Et puis on lui a dit, mais écoute, le mieux c'est que tu viennes. Donc il est venu avec Sylvie, sa compagne, avec le pressbook sous le bras et des photos. Mais les photos, c'est du statique.
C'est statique.
Et puis, il partit un peu déçu et a rappelé au téléphone en disant, de toute façon, le mieux, c'est de venir me voir rouler, travailler. Ce qu'on a fait avec Chogi, hein, qui malheureusement est décédé, et on s'est rendu sur Dunkerque. Et 3 heures après, on revenait en disant à Joël, il faut le prendre. Hein. Il faut le prendre. Ah, parce
non, 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 tu as dit, on aurait dû le prendre il y a 5 ans déjà.
Donc voilà, Joël, ça fait ses débuts comme ça.
C'est comme
et
ça que
puis,
ça a commencé.
Puis ouais, ça a été.
Quelle année ça, à peu près?
Oh là là.
Ah ben, 81er salon de la moto.
Premier salon,
92. 92
non,
avec
pas 92.
Si,
82,
si.
Le premier salon à moto.
Non, pour moi.
Pour toi,
le premier salon 92, avec en collaboration avec Alain Bourg à l'époque.
Oui.
Et j'ai eu la chance de pratiquer une fois la rocade, puisque juste l'année d'après, ça a été la ligne droite qui a été mise sur le côté. Donc j'ai eu l'occasion une fois de faire sur la rocade, effectivement, avec Alain Bourg.
Voilà, donc ça, c'est les débuts donc, de Joss.
Exact.
Tu t'es fait connaître comme ça par le salon de
Pécancourt, en fait.
Alors, ça a été le salon de la moto de Pécancourt, ça a été vraiment le tremplin, le point de départ. Après ça, rapidement derrière, il y a eu les premiers records du monde qui se sont faits en 93, en 95, en 96. Mais tous les ans, de 92 à 2002, j'étais au salon de la moto de Pécancourt. C'était le premier show de l'année, de toute façon. Et c'était la première fois que j'avais voulu à Pécancourt. Et il me semblait évident que j'y sois effectivement tous les ans. Mais pour ça, il fallait aussi que le motoclub me reprenne. La chance que j'avais à cette époque-là, c'est qu'il n'y avait peu.
Voilà,
le vivier.
C'est un peu le début, voilà, de la genèse du stuff.
Le vivier était maigre, hein, puisque le premier, à mon sens, était Artonic 8. Alors là, Karim, il était encore pas né, hein, à cette époque-là. Artonic 8, qui évoluait à l'époque, Patrick, tu dois te souvenir, avec un plâtre au pied.
Oui. Hein,
il avait une fois, effectivement, fait une chute à moto et il avait dû concourir avec un plâtre. Et il avait tellement eu de succès qu'après, il mettait un faux plâtre pour simuler
Vrai. Ah,
après, il y a eu Richard Almet. Richard Almet, qui est mon maître suprême, oui, et qui est une personne adorable que je connais très bien. Juste après Richard Almet, il y a eu l'époque Alain Bourg. Et je suis arrivé en 90, 91, 92, à l'époque où Alain était un petit peu sur la fin de son parcours. Et j'ai enchaîné. Et effectivement, de 92 à 2002, les stunters, de 92 à 98, les stunters étaient peu nombreux. En 98, avec l'arrivée d'Assez Farias, que Karim connaît pour le coup, Farias, Kevin Carmichael, Greg Jones, etc. Donc l'offre s'est multipliée et ça devenait de plus en plus dur de faire sa place. Et j'ai souhaité tirer ma révérence en 2002 parce que le stunt prenait une tournure qui ne plaisait pas.
J'arrivais plus à suivre.
J'étais
un menteur.
C'est vrai. Non, mais je l'avoue. Je l'avoue. Je voulais surtout assouvir une autre passion, c'était celle de la vitesse.
Vous énervez, voilà. On verra ça bien dimanche prochain, de toute façon.
Moi, il verra rien du tout, il sera de la fumée, lui. Donc,
Voilà quoi. Bon, allez, on va passer quand même à notre première plage musicale. Je vous rappelle aussi que la musique est signée Laurent Rodier.
Ah, c'est gentil.
Called up dear Lulu, I knew she would. I got some beer. Went up to her room. I pulled down the shades and I popped her balloon. But you know I don't remember.
Sur la première moitié des années 90, dans la longue ligne droite du Clipon, un motard aux semelles d'acier fait vrombir sa moto, la lance telle une balle, en descend, s'accroche à l'arrière et se laisse tracter par l'engin. Le tout à plus de 200 km/h. C'est Joss Hart.
Oh,
Joss.
Wow.
Joss, qu'est-ce que tu as fait quand t'as arrêté le stunt?
Alors 2002.
On avait des nouvelles de toi, tu courais dans le désert.
Ah oui, c'était oui, quoi, oui. Il y a encore d'ailleurs, j'ai encore couru ce matin, ma petite heure de footing matinale sur la plage de Malo-les-Bains. Mais effectivement, de 2002 à 2009, hein, j'ai assouvi une autre passion, c'était celle toujours de la moto, mais je rêvais de faire de la compétition, de la vitesse. Et j'ai commencé par le Championnat de France Open, c'était en 2002, pour après me diriger vers plutôt le promo sport qui avait besoin des moyens un peu moins élevés et l'endurance.
On avait même un petit team avec une dizaine de motos.
Oui, on avait une dizaine de motos, on était une dizaine de potes à s'amuser et à faire pas mal de compètes. Et après, il y a eu l'endurance. Voilà. Donc 24 ans du Mans, Bol d'Or.
7e au Bol d'Or, le monsieur, s'il vous plaît.
7e au Bol d'Or.
Ouais, on avait fait une interview en direct d'ailleurs.
Putain,
dans
le mec.
Non, mais c'est mes coéquipiers qui étaient très bons. Hein, moi, je mettais l'essence en fait.
Ne le croyez pas. Je me doutais bien qu'il y avait une.
Non, effectivement, il y a eu cette période-là. Après, il y a eu la période aussi sport, hein, puisque, comme tu disais, il y a eu des marathons, il y a eu des ultra-trails, il y a eu des choses un peu folles. Et puis, l'arrêt de la moto en 2008, puisque j'ai vendu ma concession moto en 2008, pensant avoir fait le tour de la moto et essayant un peu de me soigner, parce que j'avais atteint un taux d'addiction énorme et je ne prenais plus la mesure du danger. Et oui. Voilà, pensant que j'allais pouvoir tourner la page en 2012, j'ai appris que la marque Kawasaki était disponible sur le secteur où j'habitais, et voilà, c'est revenu. Je suis replongé une fois de plus, et forcément, comme je suis dans une concession avec des motos qui me regardent et qui m'appellent et qui me disent, mais viens, monte-moi dessus, monte-moi dessus,
et surtout, tu as embarqué toute ta famille dans l'aventure.
Voilà, donc
la passion, panique un peu les motos.
Voilà, donc aujourd'hui, retour à la moto et retour à la compétition, puisqu'après le salon de Pécancourt, il y a la moto sur laquelle je vais évoluer, forcément ça sera une moto de marque Kawasaki, et cette moto ça sera un ZX-10, et c'est la moto avec laquelle je vais faire quelques manches du championnat de France de promo sport. Bien sûr, elle sera équipée pas comme Pécancourt, parce que là elle a été faite spécifiquement pour ça, et pourquoi pas quelques compètes, et j'aimerais bien accrocher une 10e participation à une course de 24 heures.
Ah oui, quand même.
Pourquoi pas les 24 heures du Mans en septembre.
Mais cherchez cherchez ton âge sur internet, j'ai pas trouvé.
Moi je parle toujours en hors-taxe, hein, donc 33 ans. 33 ans.
33 tu vois, ans. Vous rajoutez 20%.
Bon, écoute, chapeau. Hein.
Voilà.
Écoute,
pour revenir quand même au petit clin d'œil de Pécancourt et comment ça s'est passé, le dimanche où on a lancé ce pari, j'ai quand même appelé dans la foulée Joël Pierrache, qui a été pris vraiment à chaud. Et quand je lui ai expliqué le petit deal qu'on venait de se passer, il a quand même répondu tout de suite « banco ».
Allez.
J'en parle au comité, mais banco.
Ça a été
pour moi la plus grande des récompenses, c'est de dire, même encore 12 ans après, en croit en moi. Ah. Voilà. Donc ça a été vraiment. Hein, je le remercie. Je sais qu'il m'entend et qu'il est en train de boire un verre et de poser le plancher là-bas au salon.
Hein. En fait, bois-en
pas trop,
anglais,
Joël. Ne bois-en pas trop. Il faut que le plancher soit droit. Voilà. Mais voilà. Non, non. Ça s'est vraiment passé comme ça et dans la légèreté, de la simplicité.
Je voudrais revenir un petit peu à ce que tu disais. Il y a vraiment une addiction. Des pilotes, tu penses que les pilotes qui sont dans l'atmosphère de la compétition, ils n'arrivent plus à décrocher, ils veulent toujours continuer, tu vois. Un pilote comme Capi Rossi, en Grand Prix, forcément, mais 40, il a arrêté à 43 ans.
On n'arrête pas d'être pilote. On est pilote jusqu'au bout et
besoin de ça.
Ah, c'est une adrénaline, c'est un équilibre. Je disais à Céline la semaine passée, j'ai 48 ans. Pour un fait. Ah, merde, je l'ai dit. Non, j'ai 48 ans. Je me souviens pas d'une période de ma vie où j'ai pas réfléchi ni parlé moto ni vécu moto. Donc voilà, je pense qu'on est motard déjà à la base et quand en plus on devient pilote, on reste pilote jusqu'à la fin.
Amis motards,
vous allez organiser un événement moto en 2020.
Pensez au calendrier qui tient coup.
Transmettez-nous vos infos.
On les publiera gratuitement dans le calendrier des motoclubs.
Comment faire ?
Tapez K1C sur Internet.
Et vous trouverez sur notre site le formulaire adapté.
Ou tout simplement, vous nous envoyez votre texte à l'adresse mail suivante.
calendar@k1c.fr calendar@k1c.fr.
We'll be right back.
Voilà, le magazine de la moto, c'est terminé. Nous vous souhaitons un bon dimanche et surtout une bonne semaine. Restez à l'écoute de Radio Campus Lille et rendez-vous même heure, même endroit, dimanche prochain sur le 106,6. Au revoir.